Louis Pergaud, Le roman de Miro, Chien de chasse, partie 1, chapitre 1. C'était à la côte de Longeverne, chez Lisée le braconnier. Dans la chambre du poêle donnant sur le revers du coteau, dominant le village que la route neuve de Roquefontaine enlace de ses contours, la guélotte, la ménagère, venait d'allumer sa vieille lampe. La nuit était déjà tombée, mais, afin de ménager un peu sa provision d'huile, elle avait attendu la pleine obscurité, se contentant, pour vaquer aux menus soins du ménage, de la clarté brasillante qui sortait par les soupiraux du poêle et laissait flotter, par toute la pièce, un grand mystère paisible et calme où les choses semblaient sommeiller. Dans le brûleur de cuivre, se balançant sur ses charnières, la mèche de coton rougeoya, s'enflamma doucement. Une lumière jaune, faible comme hésitante, imprécisa les arêtes des meubles. Et la femme, brandissant son flambeau devant la caisse historiée de la grande horloge comtoise, qui battait dans un coin son tic-tac régulier, ne put s'empêcher de dire tout haut, bien qu'elle fût seule. 8 heures, grand Dieu ! Et il n'est pas là, le gouillant ! Je gagerais qu'il s'est saoulé, pourvu qu'il ne soit pas arrivé malheur au petit cochon. Elle se tut un instant, ruminant encore, cherchant les causes de ce retard, s'arrêtant aux suspicions fâcheuses. S'il s'est mis à boire en arrivant là-bas, avant d'avoir fait le marché, je le connais, il est bien capable de laper complètement les sous et de ne rien acheter du tout. Ah, j'aurais bien dû aller avec lui, pourvu qu'il ne fasse pas d'autres bêtises. Un homme plein, ça fait n'importe quoi. S'il était battu, des fois, et que les gendarmes l'aient ramassé, qu'est-ce que deviendrait le petit cochon ? Avec ça qu'il est déjà si bien vu depuis son dernier procès-verbal. Je lui ai toujours dit aussi qu'avec sa sacrée sale chasse, il arriverait bien un jour ou l'autre à se faire foutre en prison et à nous mettre sur la paille. Pourtant, depuis que ces canailles de cogne l'ont pincé à l'affût, il avait bien juré que c'était fini et qu'il ne recommencerait jamais plus. Oh oui, sûrement que de ça il doit être guéri, sans quoi il n'aurait pas vendu le fusil, le chien, les munitions et tout le Saint-Frusquin. Au moins maintenant il est tranquille et ne sera plus comme Chasseur-Braise quand on lui aura enseigné un lièvre. Dire que nous en avons été pour plus de 50 francs, avec les frais. 10 beaux écus de 5 livres qu'il a fallu donner à ce bouffe-tout de percepteur, et qu'on a dû manger du pain sec et des pommes de terre pendant 2 mois. Mon Dieu ! Pourvu qu'il n'ait pas bu les sous du cochon. Si j'allais voir chez Philomène. Lui était à la foire avec sa femme. Ils sont sûrement rentrés. Peut-être pourrait-il me dire quelque chose. Mais la guélotte prête à sortir, ayant réfléchi que, si d'aventure Lisée rentrait durant son absence, il trouverait fort mauvaise cette démarche, mènerait le raffut, jurerait les milliards de dieux et peut-être ferait de la casse, elle jugea plus prudent d'attendre son retour qui ne saurait tarder, pensait-elle. Les soupiraux du poêle de fonte rougeoyaient comme des yeux malades, lançant leurs rayons sur les ventres des buffets et jouant avec les moulures des pieds du lit. Le couvercle d'une marmite où luisait le lécher des vaches, soulevé par la vapeur, se mit à battre. Un roulement semi-métallique, comme un appel infernal. La chatte, Mick, s'étira sur son coussin au bout du canapé, fit un énorme dos bossu, bâilla en ouvrant une gueule immense qui projeta ses moustaches en devant, s'étira du devant, puis du derrière, et s'assit enfin, les yeux mi-clos, la queue soigneusement ramenée devant ses pattes. La guélotte retira la soupière placée sur l'avance du fourneau et dont le ventre, chaud et poli, luisait comme une joue d'enfant. La colère grandissait et s'enflait en elle avec l'appréhension et le doute. « Grand goyant, grand soulot, grand cochon » monologuait-elle à mi-voix. La tante Veine l'énervait de plus en plus, lui faisait oublier toute prudence et, quitte à écoper d'une ou deux paires de gifles, elle se préparait à accueillir le retour de son mari par une bonne scène dans laquelle elle ne lui mâcherait pas ce qu'elle avait à lui dire. 9 heures sonnèrent à la vieille horloge. La large lentille de cuivre, comme une face ronde et hilare, semblait jouer à cache-cache avec l'insaisissable présent, tandis qu'au-dessus du nombril de verre de la caisse pansue, le profil impassible de Gambetta se découpait dans une couronne de larges lettres. Le cléricalisme, voilà l'ennemi. Ainsi en avait voulu Lisée, qui, bon républicain, avait mis ce portrait-là, bien en évidence, pour faire enrager le curé, lorsque d'aventure ce vieux brave homme, avec qui il était d'ailleurs au mieux, venait l'engager à ne pas négliger son salut, à accomplir ses devoirs de chrétien et à faire ses Pâques comme tout le monde. Les aiguilles tournaient, 9h30. Tous les foiriers étaient rentrés, pas de Lisée. La guélotte ouvrit la porte de dehors, mit la main en cornet derrière son oreille, écouta et regarda. Mais dans la nuit calme, aucun pas ne s'entendait, et le blanc lacet de la route se déroulait désert entre les grands jalons des peupliers bruissants. Elle rentra, referma lui avec violence, et, de colère, poussa même dans l'évidement du mur, qui servait de gâche, le lourd verrou d'acier. « Si tu t'amènes maintenant, tu poseras un peu, grande charogne, » ragea-t-elle. « Ça t'apprendra à arriver à l'heure. » Le couvercle de la marmite grondait plus violemment, comme énervé lui aussi. Des souris, avec un bruit de charge, galopant entre le plafond et le plancher de la chambre haute, détournèrent l'ami de sa rêverie et l'immobilisèrent un instant, les yeux ronds et flamboyants, dans une attitude d'affût. Mais, reconnaissant ce bruit familier, et sachant par expérience que celle-là était, pour l'heure du moins, hors de portée de sa griffe, elle reprit sa pose nonchalante et son air de sphinx. Sur un sac, insoucieux, les petits chats dormaient derrière le poêle. « Il va faire du temps demain pour sûr, » prophétisa la guélotte, un instant distraite, elle aussi, de la pluie ou de la bise. « Chaque fois que nos rats bougent, ça ne manque jamais. Et ce grand gouillant qui ne revient toujours pas. Jésus, qu'il y a pitié aux pauvres femmes qui ont des maris ivrognes. Pourvu tout de même qu'il ne lui soit pas arrivé malheur. S'il fallait encore le soigner, aller au médecin, au pharmacien, dépenser des sous. Et s'il s'est laissé enfiler un mauvais cochon, une mûrie qui est mauvaise bouche. C'est qu'on tombe quelquefois sur des sales bêtes qui ne savent sur quoi mordre et qui ne profitent pas. » Un coup de poing dans la porte interrompit son soliloque et la fit tressauter. « Mon Dieu, et moi qui ai mis le verrou. S'il entend quand je le retirerai, qu'est-ce qu'il va dire, surtout s'il est sous. Je vais gueuler avant lui. » Elle ne fit qu'un saut jusqu'à l'entrée, tira silencieusement la targette et ouvrit vivement la porte. Philomène, le chasseur, entra avec sa femme. Ils apportaient un sac de sel que Lisée, au moment du départ, avait fait charger sur leur voiture et, par la même occasion, venait voir le petit cochon que le patron devait ramener. « Comment, Lisée n'est pas entrée ? » s'exclama l'homme. « Non, » répondit la guélotte très inquiète. « Mais où l'as-tu laissé là-bas, à Roquefontaine ? « Quand l'avez-vous quitté ?»« Ma foi, » reprit Philomène, « si je ne me trompe, je crois bien que c'était au café Terminus. »« Oui, sûrement. Nous avons bu un litre ou deux avec Pépé de Vellerand et on a un peu parlé de la chasse, naturellement. » Il a tué 19 lièvres dans sa saison, ce sacré Pépé. Et il compte bien aller jusqu'aux 2 douzaines. Ah, on a beau dire, c'est lui le doyen. Avec Lisée et moi, sans nous vanter, on est bien les 3 plus fameux fusils du canton. Il ne voulait pas croire que Lisée ne chassait plus. Si c'était pas toi qui me le dises, là, en chair et en os, que t'as vendu ton fligo et ton vieux taillot, je pourrais pas me le figurer. Qu'est-ce que tu veux, s'excusait Lisée. J'étais pris. Les gendarmes et le brigadier forestier Martet m'avaient à l'œil. Je me connais. J'aurais pas pu me tenir et ils m'auraient sûrement repincé. Alors, tu vois le tableau. Nouveau procès-verbal, plus 30 francs à verser pour conserver la quisse et la vieille à la maison qui râle que je nous ficherai sur la paille. J'ai tout bazardé. Sacré nom de Dieu, reprenait Pépé. J'aurais jamais eu ce courage-là, moi. C'est les lièvres de Longeverne qui doivent bien rigoler. Ah, mon vieux, m'en reparle pas. Ça me fait trop mal au cœur. Là-dessus, la bourgeoise est venue me prendre. Je les ai quittés et nous sommes partis sur le champ de foire acheter une mère brebis avec ses 2 moutons pour les hiverner. Vers 2 heures, je suis repassée à l'auberge pour charger le sac de sel que ton homme y avait entreposé. Mais on m'a dit que Lisée n'était plus là et qu'il était allé chez quelqu'un avec Pépé. J'ai pensé que c'était pour le cochon, mais j'avais plus le temps d'attendre et on s'en est revenu à Longeverne, les 2, la vieille. Il n'était pas saoul, Lisée, quand tu l'as quitté, s'inquiète à la guélotte. Oh, ça non, j'en suis sûre. Il n'était pas à jeun, bien entendu. On avait bu 1 litre ou 2. Mais pour dire qu'il était saoul, non, on ne peut pas dire qu'il était saoul. C'est que j'ai rien que peur qu'il n'ait encore fait des bêtises. Quoi ? Quelles bêtises veux-tu qu'il fasse ? Sait-on, les hommes saouls ? Asseyez-vous toujours un moment. Il ne va sans doute pas tarder de rentrer. Vous prendrez bien une tasse de café ou une goutte. On prendra une petite larme histoire de trinquer. La femme de Philomène s'assit sur le canapé, près de l'ami que qu'elle caressa, tandis que son mari se mettait à califourchon sur une chaise. Lentement, il nettoya sa pipe dont il taqua le fourneau contre le dossier du siège. Puis, extirpant de sa poche de pantalon une vessie de cochon séchée et bordée de tresses noires contenant son tabac, il bourra méthodiquement et avec le plus grand soin son brûle-gueule. Il trouva dans une poche de son gilet 2 allumettes de contrebande collées l'une à l'autre, les sépara, en frotta une contre sa cuisse et alluma, affirmant son profond mépris du fisc. Vive la régie de Vercelles! Si on n'avait pas celle-là pour enflammer celle du gouvernement, on pourrait bien se brosser pour avoir du feu. Sa femme, durant ce temps, s'inquiétait de la façon dont pondaient les poussines de la guélotte et du nombre de petits qu'avait fait sa grosse mère Lapine. Philomène tirait des bouffées régulières de sa pipe. Le poêle ronflait doucement. Les minutes coulaient comme une onde monotone. Rien ne bougeait au dehors. Dans son papotage avec la voisine, la guélotte, excitée, oubliait un peu que les aiguilles de l'horloge tournaient. Quand son culot, 3 fois rallumé, s'éteignit définitivement, que son verre fut vide, les 10 coups de 10 heures sonnèrent, et Philomène, frappant 2 claques sur ses cuisses, se leva. « 10 heures ! » s'exclama-t-il. Qu'est-ce que ce sacré Lisée peut bien foutre ? Allons, il est temps d'aller au lit. Demain, la charrue nous attend. Nous avons une planche à lever et le travail ne se fait pas tout seul. Mais on reviendra sur le coup de midi pour voir ton petit cochon. Vous en verrez 2, répondit la guélotte en qui remontait la colère. Le petit et le gros qui doit ramener l'autre. En vérité, je ne saurais dire quel est le plus cochon des 2. « Ah, le gouillant, le salaud, la sale bête !» Et sur le pas de la porte, en éclairant les voisins, elle entrecoupait ses remerciements et ses bonsoirs d'invectives violentes contre son ivrogne de mari, qui ne pouvait jamais rentrer de jour. Une heure se traîna encore, puis une demie. La guélotte s'était couchée sur le canapé et avait essayé de dormir. Mais c'était bien impossible. Alors elle s'était relevée, puis de 5 minutes en 5 minutes, était allée écouter à la porte si elle entendait marcher sur la route. Et en fin de compte, résignée et ronchonnante, elle tricotait sa chaussette, tout en poussant des monosyllabes qui en disaient long sur la façon dont elle se préparait à accueillir le retour de son homme. Le crissement des gros clous de souliers sur le pavé du seuil la fit bondir à la cuisine, la lampe à la main, pour éclairer l'entrée du maître. Alors la porte s'ouvrit. Et Lisée, magnifiquement saoul, s'encadra dans le chambranle. Il ne ramenait point de petit cochon, mais une bretelle de cuir fauve suspendait à son épaule gauche un fusil fauché à 2 coups, tandis que, de la main droite, il tenait une cordelette, au bout de laquelle un petit chien de 3 à 4 mois tirait de toutes ses forces vers les marmites. « Ici, Miro, nom de Dieu! Ici, sacrée petite rosse! T'es pas plus pressé que moi, bégayait Lisée, la langue pâteuse. Et le petit cochon? J'ai pas dégoté ce qu'il me fallait, mais tu vois, j'ai retrouvé un fusil et un chien. Ça pouvait pas durer plus longtemps, cette comédie. Lisée qui ne chasse plus. Allons donc. » La guélotte, blanche comme un linge, figée comme une statue, fixait tour à tour son homme et le chien. « Fais à manger à cette bête, commanda Lisée. Tu vois bien qu'elle a faim. » Et les sous décrochaient enfin la guélotte. « Puisque je te dis que j'ai racheté un fusil et un chien. » « Oh mon Dieu, d'où Jésus ayez pitié de nous, » râla la femme en se tordant les bras. « Misère de moi d'avoir un pareil ivrogne. Nous serons un jour à la mendicité, oui. Nous crèverons de faim sur la paille. Assez, assez, nom de Dieu, ou je refoule le camp, menaça Lisée. Mais sous l'eau, qu'est-ce que tu boiras cet hiver, puisque tu as déjà tout bu aujourd'hui les sous du ménage? Qu'est-ce que je boirai, moi? Tu te tairas, répliqua Lisée, philosophe. Ah oui, tu peux bien plaisanter, grand voyou, grande guape, grand saligot. Point de cochon, point de lard, point de jambon, point de saucisse. Tu mangeras ton pain sec, grand mandrin. » Cette réception n'était pas tout à fait du goût de Lisée, qui commençait à en avoir assez de ses injures et de ses prophéties. L'alcool, non cuvé encore, rallumait en lui ses vieux sentiments batailleurs. Il était temps que sa femme cessât. Et il le lui fit bien comprendre dans une réplique acerbe et virulente, dont le ton ne laissait aucun doute sur la qualité des actes qui allaient suivre. « Et moi, qu'est-ce que je mangerai avec mon pain ? » continua-t-elle gourmande. « Tu mangeras de la... nom de Dieu » tonna-t-il. La guélotte se tut. « Fais à manger à cette bête et vivement !»« Sale viosse !» ragea la femme en bousculant le chien. Ce fut ainsi que Miro entra dans la maison de Lisée.